Permettez que je m'adresse d'emblée ce matin à vous, mes amis, qui dites attendre de Dieu qu'il vous accueille favorablement au dernier jour et vous accorde alors de goûter enfin à la plénitude de son salut. Sur quoi ? Sur quoi fondez-vous votre espérance ? Sur quoi fondez-vous votre espérance ? Sur votre appartenance à une famille admirable ? Ou votre attachement à une église réputée ? Sur les qualités qui font de vous un être à part ? Ou sur vos œuvres exemplaires ? Sur les renoncements déjà consentis ou sur les progrès que vous comptez faire bientôt. Bref, sur vous et ce que vous représentez ou sur Christ et ce qu'il représente. Vous souriez, mais la question vaut d'être posée de temps à l'autre. Tant il est vrai que le risque n'est hélas jamais nul que nous construisions nos attentes sur du sable. Et nous exposions ainsi aux pires désillusions. À l'image de ces soi-disant docteurs qui sévissent dans la région de Philippe, en Macédoine, et dont les hérésies ont déjà commencé de troubler nombre de chrétiens. D'où ces lignes d'une rare fermeté, écrites par l'apôtre Paul pour mettre en garde ses amis philippiens, et que je vous propose de relire maintenant avec moi. Nous les trouvons dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, lettre dont nous poursuivons l'étude depuis quelques mois. Lettre aux Philippiens, chapitre 3. Nous lirons les 7 premiers versets, Philippiens 3, versets 1 à 7. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. C'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui mettons notre confiance non pas dans notre condition, mais en lui, qui sommes la vraie circoncision. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, je suis pharisien. Au point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Une correction salutaire, tel pourrait être le titre de ce bref développement de l'apôtre. Car si le désir de l'apôtre est sincère de voir ses amis macédoniens se réjouir encore et encore dans le Seigneur, comme il le dit, ou à cause du Seigneur. Si ce désir est sincère, il est vite dépassé par le souci qu'il a de les savoir en sécurité, théologiquement. Pourquoi ? Mais c'est parce qu'ils sont en danger. Ils sont en danger. Nous le disions il y a un instant, des prédicateurs porteurs d'un autre évangile que celui que lui, Paul, et ses compagnons leur ont annoncé les harcèle et les trouble, au point que l'apôtre se demande maintenant, inquiet, si ses amis philippiens resteront encore longtemps imperméables à leurs arguments fallacieux. Lui qui, plutôt, les exhortait à résister face à leurs persécuteurs, doit donc maintenant les presser de se montrer totalement et définitivement intolérant à l'égard d'un enseignement capable, lui, de détruire l'Église de l'intérieur. Le contenu de cet enseignement, il n'est pas inutile, en effet, de le rappeler ici. Résumons. Le salut, par la foi en Jésus-Christ, oui, mais pas seulement, par l'observance de la loi aussi, et donc, entre autres, la circoncision, bien sûr. Le but de la vie chrétienne, la perfection, oui, sauf que ce but, nous l'avons déjà atteint. Qu'attendez-vous donc, vous, pour y toucher? La gloire, elle est notre privilège aujourd'hui. Ne nous parlez donc plus de renoncement, de souffrance, de sacrifice, de croix, de mort. Tout cela pour nous, c'est du passé. L'heure a sonné des victoires sans fin et de la prospérité sans limite. Pas étonnant que Paul s'insurge. C'est le cœur même de sa prédication. C'est l'Évangile qu'on cherche à torpiller. D'où son ton, son vocabulaire aussi, d'une violence inouïe. Voyez comment au verset 2, il traite ces pseudo-docteurs qui menacent l'Église. Chien. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Mauvais ouvrier. Faux circoncis. Qui oserait employer ces termes aujourd'hui? Chien d'abord, l'insulte suprême. Les chiens ne se nourrissent-ils pas de déchets, de détritus et autres immondices? L'insulte dont usent volontiers ses adversaires pour exprimer le véritable dégoût que leur inspirent celles et ceux qui ne sont pas liés comme eux à la loi de Moïse. Les païens, êtres impurs s'il en est, Paul la saisit, cette insulte, et la retourne contre eux. C'est eux, les païens, eux, les chiens, eux, la meute hurlante qu'il convient de faire déguerpir. Chiens, mauvais ouvriers ensuite, qui rappellent l'artisan d'injustice du livre des psaumes, en appelant les chrétiens à se replacer sous le joug de la loi. Ces prêcheurs se targuent de faire œuvre utile, que dis-je, salutaire, ils ne sont en réalité que les porte-paroles de Satan. Ces agents déguisés en messagers de lumière. Faux circoncis, enfin. Littéralement, incision. Incision, oui, incision. Une manière pour l'apôtre qui ne décolère pas de rabaisser encore ses ennemis en accentuant le côté proprement ridicule de leur enseignement. En commandant à tous de se faire circoncire, ils érigent en moyen de salut ce qui en soi n'est rien, sinon une petite mutilation sans efficace particulière. Paul, on le voit, n'a pas de mots assez durs pour accabler ceux dont les beaux discours sont autant de coups portés à cet évangile dont il a été appelé à être le fidèle serviteur et pour lequel il est aujourd'hui dans les liens, en prison. Et là, je dis que nous avons une bonne leçon pour tous nos bisounours évangéliques, pour qui tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et qui ne supporte pas que l'on puisse dénoncer avec vigueur qui que ce soit, dès lors qu'il porte le nom de chrétien et se dit serviteur de Dieu. Pareil ramollissement n'est pas la marque rassurante d'une maturité spirituelle prometteuse, mais le signe inquiétant au contraire d'une démission coupable. Intransigeant, intraitable, virulent même s'il le faut. Voilà ce que nous devrions être aujourd'hui à l'égard de ceux qui, en propageant un autre évangile, se font ennemis, non seulement de l'Église, de Christ, mais encore de tous les hommes. Mais revenons à Paul, pourquoi un tel emportement de sa part ? Parce que, je le répète, il est inquiet. Très inquiet même, tant il est vrai que tous, à Philippe, ne sont pas également perspicaces et que d'aucuns pourraient bientôt se laisser séduire. D'où sa triple injonction, verset 2 toujours, « Faites attention, faites attention, faites attention !» Ouvrez les yeux, je vous en conjure, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et surtout sa correction, verset 3, les vrais circoncis, eh bien c'est nous. Et nous voici parvenus au cœur de notre texte qui se veut d'abord, je l'ai dit, je le redis, une correction salutaire. Suffisamment importante pour que nous prenions le temps maintenant d'essayer au moins d'en bien saisir le sens. Deux questions se posent ici en lien avec le verset 3. Que faut-il entendre par « vrai circoncis » et qui sont ceux que Paul considère comme tels ? Que faut-il entendre par « vrai circoncis » ? Un bref rappel est ici nécessaire. La circoncision dans l'Ancien Testament est un signe. Le signe donné comme marque extérieure de son appartenance à Dieu. Cela dit, Moïse déjà, les prophètes ensuite, insistent sur ce point essentiel. Ce signe n'a de sens que s'il se double d'une attitude intérieure de soumission, d'attachement et de fidélité au Seigneur, ce que d'aucuns parmi eux nomment la circoncision du cœur. Sans elle, la marque corporelle n'est rien. Une mutilation parmi d'autres, c'est tout sans la moindre valeur spirituelle. C'est pourquoi Paul peut parler, comme il vient de le faire, de faux circoncis. Autrement dit, d'hommes juifs en général, dont la chair a été incisée, mais dont le cœur, lui, n'a toujours pas été touché, attendri, renouvelé par l'Esprit de Dieu. Mais aussi, comme ici, de vrais circoncis, littéralement, de la circoncision, la vraie par opposition, rappelez-vous, à l'incision. Les deux termes apparaissent dans ce texte. À qui fait-il référence cette fois ? Réponse, à ceux dont la vie, et non la chair seulement, mais la vie, porte la marque incontestable de leur appartenance à Dieu, et partant de l'œuvre régénératrice de l'Esprit-Saint. Et nous en venons ainsi, tout naturellement, à notre seconde question, la plus importante. Qui sont précisément les vrais circoncis ? Qui sont précisément les vrais circoncis ? Une autre manière de demander, quels sont ceux qui constituent le vrai peuple de Dieu ? Réponse de Paul, verset 3 encore, nous. Ben oui, nous. Les vrais circoncis, écrit-il, c'est nous. Reste à identifier, bien sûr, ce que recouvre ce nous. C'est ce que l'apôtre nous aide à faire aussitôt, les vrais circoncis, tous ceux, mais ceux-là seulement, qui, écrit-il, un, rendent leur culte à Dieu par son esprit, et deux, placent leur fierté en Jésus-Christ et en lui seul. Ceux qui rendent leur culte à Dieu par son esprit d'abord. En d'autres termes, ceux qui ne se satisfont pas d'un culte tout en discours, gestes, rites et autres manifestations extérieures répétées à l'envi, mais qui, conseillés comme ils le sont par l'Esprit Saint, s'inquiètent d'offrir moins à Dieu que leur vie tout entière, comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui serait de leur part, a déjà dit l'apôtre Paul, un culte raisonnable. Le vrai peuple de Dieu, on le voit, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Dès l'instant où notre ambition nouvelle est de traduire l'amour qu'il nous inspire par davantage que de paroles, des paroles convenues et des pratiques stéréotypées. Par la consécration joyeuse et sans réserve de tout notre être à la réalisation d'œuvres belles, assez belles en tout cas, pour lui être agréable et soutenir sa réputation devant les hommes. Cela dit, si les vrais circoncis sont d'abord ceux qui rendent à Dieu un culte essentiellement spirituel, ils sont ensuite ceux qui placent leur fierté en Jésus-Christ et en lui seul. Conscient de réunir ici les deux dernières propositions du verset 3 en une seule, conscient, je le suis, mais je pense avoir de bonnes raisons pour le faire. Contre quelle erreur grossière et surtout fatale Paul met-il ses lecteurs en garde et nous avec eux? C'est simple. Contre celle communément commise aujourd'hui encore, qui consiste à fonder son espérance de salut sur la richesse de son CV plutôt que sur Jésus-Christ. Et lui seul. S'il en est un, explique l'apôtre dans les versets 4, 5 et 6, dont le curriculum vitae, le CV si vous préférez, devait attirer sur lui la faveur divine, c'est bien lui, Paul. Circoncis le huitième jour, en règle donc avec la loi. Issu du peuple d'Israël, autrement dit, membre du peuple élu. De la tribu de Benjamin. Entendez, appartenant à la plus glorieuse des tribus. Hébreu, né d'Hébreu, dont la culture donc, et pas seulement l'enracinement, est 100% hébraïque. Pharisien, comprenez un saint au sens de séparé, de pur, dont le zèle pour Dieu et sa maison fit de lui en son temps un persécuteur de l'Église, c'est dire sa détermination à éradiquer l'hérésie. Et pour finir, par rapport à la justice de la loi, irréprochable. Entendez par là, parfait. Plus qualifié que Paul, tu meurs. Oui, s'il en est un qui pouvait être fier de ses états de service autant que de son pédigré, c'est bien lui, Paul. Et s'il en est un qui pouvait s'approcher de Dieu en toute confiance, c'est encore lui, Paul. Comment, en effet, le Seigneur pouvait-il faire autrement que d'accorder sa bénédiction à un tel homme? Il ne pouvait tout simplement pas la lui refuser. Il ne s'agissait que d'une juste récompense. Or, que dit Paul, verset 7, ses qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte, à cause de Christ. Et plus loin, au verset 8, il les qualifiera même d'ordures. Pourquoi? Là encore, pour une raison très simple. Parce qu'elle l'avait égaré, et du coup, mise en danger, en lui donnant à penser que Dieu, au moment de lui accorder son salut, regarderait à ses mérites. Oui, elle l'avait égaré et du coup mise en danger en lui donnant à penser que Dieu, d'une manière générale, au moment d'accorder son salut, regardait au mérite de chacun, à vos mérites. Comme au mien. Comme si nos origines, nos qualités, nos réalisations, fussent-elles exemplaires, avaient quelque chose à voir avec le choix divin de nous épargner ou non. Le salut, jure Paul aux Philippiens, est par grâce. Ou il n'est pas. Et ceux à qui ce véritable cadeau est fait ne sont pas, comme je l'ai cru un temps et comme voudraient vous le faire croire encore ces chiens qui vous harcèlent et veulent votre ruine. Ceux qui se reposent sur leurs prétendues qualités ou œuvres, mais ceux-là seulement qui mettent toute leur confiance dans les mérites bien réels, eux, de Jésus-Christ. Ainsi, pour revenir à notre question initiale, qui sont les vrais circoncis ? Le peuple de Dieu aujourd'hui, réponse, tous ceux, mais tous ceux-là seulement, qui, circoncis ou non, placent leur fierté en Jésus. Comptant sur lui et lui seul, pour les couvrir de sa justice comme d'un vêtement, et se faisant attirer sur eux la faveur de Dieu. Les vrais circoncis, donc, le vrai peuple de Dieu, vous et moi, nous, dès lors que, après avoir renoncé à faire valoir devant lui nos soi-disant mérites, nous avons reporté toute notre confiance sur Christ, sa personne et son œuvre, pour nous mettre au bénéfice de la grâce divine et nous assurer ainsi un salut éternel. Un choix qu'a fait l'apôtre, versets 8 et 9, j'anticipe un peu sur la prochaine fois, je considère tout comme une perte, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Un choix qu'il nous invite à faire nôtre ce matin, si nous ne l'avons pas déjà fait. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, explique Paul dans une autre de ses lettres, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Sinon, c'est moi qui ajoute, sinon de Christ. Puisque, dit-il encore, mais aux Romains cette fois, c'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour tous ceux qui croiraient, de telle sorte qu'il puisse se montrer juste en déclarant juste qui ? Celui qui a la foi en Jésus. Où donc, demande-t-il alors, se trouve la raison de se montrer fier ? Elle est exclue. En effet, je poursuis la citation, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Il n'y a donc qu'un seul Dieu qui déclarera les circoncis juste sur la base de quoi ? De la foi. Et qui déclarera aussi les incirconcis juste au moyen de la foi. Fin de citation. Il nous faut conclure. La Bible parle d'un évangile qui nous a été annoncé, d'une bonne nouvelle qu'il nous revient désormais de transmettre aux hommes. Pourquoi ce mot ? Mais parce que le message que nous avons reçu et que nous vous annonçons aujourd'hui est une bonne nouvelle. La plus heureuse même qui soit. Écoutez bien, parce qu'il ne se mérite pas, mais se reçoit seulement par la foi. Le salut est pour tous et à la portée de tous, y compris les pires parmi nous. Mais il y a plus, parce qu'il ne se mérite pas, mais se reçoit seulement par la foi. Le salut reçu est acquis. Acquis pour toujours. Dieu ne retire pas ce qu'il donne. Dieu ne retire pas ce qu'il donne. Ah oui, mais avec tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis, le salut est par la foi. C'est un don de Dieu qui n'a rien à voir avec nos mérites, ni avec nos accomplissements. Au gardien de la prison de Philippe, précisément, nous sommes dans le contexte de la lettre écrite aux Philippiens, au gardien de la prison de Philippe, qui tout tremblant demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Que faut-il que je fasse ?» Paul et Silas, son compagnon, répondent simplement « Crois. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, c'est tout. » Et d'aucuns ici continueraient de chercher ailleurs que dans cette seule foi leur raison d'espérer la clémence divine. Ce serait folie de leur part. Plaise à Dieu qu'il n'ait bientôt plus qu'un désir sans remettre une bonne foi au seul mérite de Christ. Ils sauront alors que couverts par sa justice, eux aussi entreront dans le saint lieu. Eux aussi verront Dieu. Eux aussi connaîtront dans sa présence, plus encore que des joies abondantes, un bonheur éternel. Amen.